Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous. Le Monde aujourd'hui, édition de 19h30, temps universel du mardi 3 juillet 2018. Abdourahmane Dia en direct de Washington. Voici les titres. Visite du président français Emmanuel Macron au Nigeria, l'économie et la sécurité au menu de sa visite. Au Burkina Faso, 2 mois de prison ferme pour l'activiste Naïm Touré, poursuivi pour participation à une entreprise de démoralisation des forces de sécurité. Report au Niger du procès d'une vingtaine de militants des droits de l'homme qui avaient manifesté contre la loi des finances. Et en partie magazine, retour sur le salon du Pan-Africain à Brazzaville.
Pendant le mariage ici au Congo, on demande toujours les pagnes et souvent les femmes aussi sont habillées en pagne pour leur dot, le mariage traditionnel. Vraiment, le pagne, c'est le chouchou de la femme africaine.
Ne ratez pas les sports avec Nicolas Pinault, le journal de la Coupe du Monde. Mais tout de suite, les informations. Bienvenue à tous. La justice burkinabé a condamné Naïm Touré à 2 mois de prison ferme pour incitation à la révolte pour avoir publié un post incitant les forces de défense et de sécurité à manifester contre de mauvais traitements. Le point avec Bagassi Koura.
Arrêté le 14 juin et incarcéré depuis à Ouagadougou, Naïm Touré était poursuivi pour, je cite, « participation à une entreprise de démoralisation des forces de défense et de sécurité, incitation à des troubles à l'ordre public et proposition aux forces de défense et de sécurité de former un complot contre la sûreté de l'État ». Le tribunal de grande instance de Ouagadougou, devant lequel a comparu le prévenu, a abandonné 2 de ses charges, mais l'a reconnu coupable d'incitation à la révolte et condamné à 2 mois de prison ferme. On a été surpris parce qu'à l'audience, nous avons démontré à suffisance qu'il n'y avait pas d'infraction. Je ne suis pas content de cette décision et nous allons faire appel, a déclaré son avocat Maître Roger Yamba. Le 13 juin, le jeune homme avait publié sur sa page Facebook un pamphlet contre le pouvoir et les forces de l'ordre, dénonçant le manque de diligence dans l'évacuation sanitaire d'un élément de l'unité spéciale de la gendarmerie blessé par balle lors d'une opération antiterroriste à Ouagadougou. Naïm Touré avait déjà été condamné en 2017 pour injure.
Au Niger, le procès d'une vingtaine de militants de la société civile nigérienne détenus depuis mars après une manifestation interdite a été reporté au 10 juillet. On fait le point avec Eric Manuel-Kiza.
Le procès des militants de la société civile prévu ce mardi 3 juillet est renvoyé au mardi 10 juillet, a affirmé un des responsables des ONG. Les raisons du report ne sont pas précisées. Les détenus, écroués dans des prisons, n'ont pas été acheminés au palais de justice de Niamey. Les 26 prévenus, dont des figures de la société civile, ont été pour la plupart arrêtés le 25 mars. C'était à la suite de heurts entre les forces de l'ordre et des manifestants qui voulaient braver une interdiction de manifester contre la loi de finances 2018 qu'ils jugent antisociale. D'après leurs avocats, ils sont poursuivis pour organisation et participation à une marche interdite et complicité de dégradation de biens publics et privés. Amnesty International a appelé à leur libération immédiate et sans condition.
En Guinée équatoriale, les fonctionnaires ne peuvent plus voyager à l'étranger depuis mi-juin sans autorisation du vice-président Théodore Obiang Nguema. Je n'ai pas pu voyager faute de cette autorisation. Je ne savais pas. À l'aéroport, on m'a dit qu'il en fallait une pour les fonctionnaires, a déclaré Juan Bo. Il est fonctionnaire à l'Institut national de sécurité sociale. Une information confirmée par d'autres agents de l'État. La police zimbabwéenne a arrêté 2 personnes soupçonnées d'être liées à l'attentat à la grenade qui a tué 2 gardes du corps du président Emmerson Mnangagwa. Nous continuerons notre travail tant que tous les responsables de cet acte odieux ne seront pas arrêtés et traduits devant la justice, a déclaré le patron de la police nationale. Il n'a donné aucun détail sur l'identité ou les faits reprochés aux deux suspects. Je rappelle que 2 autres personnes avaient déjà été arrêtées la semaine dernière en lien avec l'attentat. Le président du Malawi, Peter Mutharika, a accepté ce mardi l'investiture de son parti pour briguer un 2e mandat lors des élections de l'an prochain, malgré les appels à la démission de l'opposition pour cause d'allégations de corruption. Le chef de l'État est la cible depuis plusieurs jours de vives critiques après la révélation d'une enquête officielle du bureau anticorruption qui le soupçonne d'avoir touché plus de 195 000 $ de pots de vin de la part d'une entreprise qui avait remporté un marché public. Un nouveau naufrage au large des côtes libyennes a fait au moins 63 disparus dans un nouveau drame de l'immigration clandestine en Méditerranée qui porte à près de 170 le nombre total des disparus depuis vendredi. En Tunisie, Souad Abderrahim, tête de liste du parti islamiste Ennahda lors des récentes élections municipales, devient la première femme maire de Tunis. On fait le point avec Raissa Gironda.
Souad Abderrahim, la candidate du parti Ennahda, mais qui se définit comme indépendante, a été élue maire de Tunis. Avec 26 voix contre 22 pour son principal adversaire, Kamel Idir, elle a été élue lors d'un deuxième tour boycotté par certains élus de gauche et du centre, se refusant de voter pour l'un ou l'autre des deux partis hégémoniques, Ennahda et Nida. L'événement est qualifié d'historique car c'est la première fois qu'une femme est à la tête de la capitale d'un pays arabe. J'offre cette victoire à toutes les femmes de mon pays, à toute la jeunesse et à la Tunisie, a lancé cette gérante d'une entreprise pharmaceutique. Le premier dossier, ce sera l'amélioration de l'esthétique de Tunis, a-t-elle ajouté. La capitale tunisienne est en effet confrontée à un problème de gestion des déchets qui s'est empiré après la révolution de 2011, qualifiée de berceau du printemps arabe.
Et je vous le disais dans les titres, le président français Emmanuel Macron a effectué une visite au Nigeria après avoir assisté au sommet de l'Union africaine en Mauritanie. Il a rencontré le président Muhammadu Buhari à Abuja avant de se rendre à Lagos pour visiter le sanctuaire africain de Fela créé par l'ancienne légende de la musique nigériane. Le point avec notre correspondant Gilbert Tamba à Abuja.
Le président français effectue une visite en trois dimensions, politique, économique et culturelle. Pour le président français, le Nigeria représente d'abord un choix actif. Il y a effectué son stage il y a 15 ans auprès de l'ambassade de France au Nigeria. Le Nigeria représente aussi un choix politique au vu du poids du président Muhammadu Buhari en Afrique de l'Ouest. Les deux chefs d'État discutent non seulement de la lutte contre Boko Haram, mais aussi de la situation de sécurité dans la région du Sahel. Muhammadu Buhari a été un acteur essentiel de la force d'action africaine contre Boko Haram avec des résultats, a déclaré le président français à son arrivée. En plus, au-delà de sa visite à haute portée symbolique, au mythique club phare de Fela Kuti, le président français veut rapprocher la France des pays anglophones et du Nigeria en particulier. Le Nigeria qui représente un grand centre d'affaires avec une population qui atteint aujourd'hui les 200 millions. Emmanuel Macron, qui est également le premier président à visiter le sanctuaire de Fela Kuti, est le premier président français à se rendre à Lagos, la première mégapole d'Afrique. Accompagné des musiciens sénégalais Youssouf Ndour et béninoise Angélique Kidjo, Emmanuel Macron lancera l'organisation de la saison des cultures africaines qui se tiendra en France en 2020.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Les Palestiniens ont dénoncé ce mardi l'adoption par le Parlement israélien d'une loi permettant de geler le transfert à l'autorité palestinienne du montant des allocations qu'elle accorde aux familles des détenus palestiniens. C'est un acte de piraterie, un vol qui revient à vouloir supprimer l'autorité palestinienne, a affirmé Saïd Erekat. Il est le secrétaire général de l'Organisation de libération de la Palestine. L'ONU dénonce l'impact dévastateur de 3 ans de conflit au Yémen sur les enfants, dont 2200 ont été tués et beaucoup d'autres souffrent de la famine. Selon l'ONU, certains d'entre eux sont contraints de se battre. Le conflit continu au Yémen a poussé un pays déjà au bord du gouffre vers les profondeurs de l'abîme, a averti Henrietta Fore, directrice exécutive du Fonds des Nations Unies pour l'enfance, UNICEF. Et puis au Pakistan, une explosion s'est produite ce mardi dans les locaux d'un parti de l'opposition dans le nord-ouest, blessant 10 personnes en pleine campagne pour les élections législatives nationales. La déflagration a touché une permanence locale du parti de l'ancien champion de cricket Imran Khan. Voilà pour le journal. Merci d'avoir suivi. On passe tout de suite au journal de la Coupe du Monde avec vous, Nicolas Pinot. Nicolas, bonsoir.
Bonsoir Abdourahmane, bonsoir à tous. On parle de ce match Colombie-Angleterre dont le coup d'envoi a été donné à 18h, temps universel. Pour le moment, 0-0 entre les deux équipes. Il reste quelques minutes de jeu et les esprits s'échauffent entre Colombiens et Anglais. On annonce bien évidemment que James Rodriguez, le joueur star de la Colombie, ne figure pas dans le 11 de départ de José Pekerman. Il n'est même pas présent sur le banc. On le rappelle qu'il s'est blessé face au Sénégal. En tout cas, pour le moment, 0-0. Et dans la première rencontre de la journée, match ennuyeux cet après-midi entre la Suède et la Suisse. Et ce sont les Suédois qui se qualifient au bout de 90 minutes grâce au premier but de Forsberg dans la compétition. C'est une première pour la Suède qui se qualifie pour un quart de finale, une première depuis 1994. Le point avec l'envoyé spécial de VOA Afrique en Russie, Amdinsi.
Il a fallu attendre la 66e minute pour voir les Suédois concrétiser leur domination par l'intermédiaire de Foster, auteur de son premier but dans ce mondial après trois prestations quelconques, bien servi par Tervonen, l'attaquant des Vikings, a trompé la vigilance du portier suisse d'une frappe du droit qui a été déviée. Les Suédois avaient même la possibilité de doubler la mise dans le temps additionnel sur un corner éclair. Orson qui filait au but a été bousculé par Lang. L'arbitre désigne le point de pénalty et expulse le défenseur suisse avant de revenir sur sa décision. À la place d'un pénalty, il souffre un coup franc après avoir consulté la vidéo, encore la VAR. Mais la messe était déjà dite car les Suédois vont disputer les quarts de finale pour la première fois depuis 1994. Amédine Moscou, vers Afrique.
Retour à présent sur le scénario incroyable hier à Rostov pour les Diables Rouges de la Belgique. Menée 2-0 par le Japon à la surprise générale, la Belgique a effectué un superbe retour pour arracher son billet pour les quarts de finale de cette Coupe du Monde. 3-2, un match assez fou. Évidemment, la Belgique avait fortement dominé la première période, mais sans concrétiser. Après la pause, le basculement sur un but d'Araguchi qui crée à la surprise générale cette ouverture du score. Il lui double la mise quelques minutes plus tard. Pierre Vertonghen réduit le score pour la Belgique. Fellaini égalise. On joue alors la 74e minute de jeu. Et le dernier quart d'heure va être complètement fou jusqu'à ce but libérateur pour les Belges de Nasser Chadli. On aura donc un quart de finale Belgique. Brésil, puisque les Brésiliens ont battu 2-0 le Mexique grâce à des buts de Neymar et Firmino. C'est le coup de sifflet de Jules Valentin-Gouy.
Bonsoir. Lorsque le Brésil retrouve la stratégie qui le fait gagner depuis 1994, les supporters se mettent à rêver d'une sixième couronne. En effet, cette stratégie gagnante se précise plus clairement avec l'amélioration du dispositif rechoisi au début de la compétition. Lors du match Brésil-Mexique, le sélectionneur a réajusté à juste titre la position offensive de ses joueurs, d'où la pagaille que le virevoltant William a provoquée en occupant une position axiale du remonteur de balle, rendant plus fluide l'animation du jeu d'attaque de Carioca. Et quand on sait que, depuis le raté de la génération romantique de Carioca en 1990, le Brésil a fait le choix de la solidité défensive, de l'opacité du bloc et du rendement maximum à l'individuel comme en attaque placée, de super attaquants portés à l'avant. Les résultats ont suivi. Pour la victoire de 1994, c'est le duo Romario Bebeto qui faisait la différence en attaque, tandis que le capitaine Dunga cadenassait au milieu, un bloc défensif hermétique où s'échappait souvent sur la droite un centreur intelligent nommé Cafu. En 2002, le même schéma était servi. Gilberto fermant au milieu, et le trio d'attaque Ronaldo, Rivaldo et Ronaldinho était inarrêtable, toujours appuyé sur sa droite par Cafu, devenu capitaine. Le Brésil reprenait son bien. Si la rareté de talent, le même volume à l'avant explique en partie les éclipses de 2006 à 2014, le cri actuel va profiter de la présence d'un joueur hors norme, Neymar Junior, pour tenter de faire le coup de 94 et 2002. La rencontre contre le Mexique a donc installé le pays de Pelé dans le fauteuil de super favori actuel et à la France, à l'Uruguay, à la Belgique ou d'autres de lui rappeler la tendance anti-star de cette Coupe du Monde. À bientôt.
Merci Jules Vandenbouy. On rappelle 0-0 le score entre la Colombie et l'Angleterre. Le vainqueur de ce match affrontera la Suède en quart de finale. Pas de match demain ni jeudi, mais vendredi la France affrontera l'Argentine en quart de finale et la Belgique face au Brésil. C'est tout pour ce journal de la Coupe du Monde à Durham.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Abdourahmane Diab toujours en votre compagnie et on passe au dossier du jour. Fin du sommet de l'Union africaine en Mauritanie, les dirigeants de l'organisation panafricaine ont discuté des questions de sécurité liées aux crises sur le continent de la zone de libre-échange continentale et ont soutenu la candidature du Rwanda pour diriger la francophonie. Ce sommet de Nouakchott a été aussi marqué par la présence du président français Emmanuel Macron, qui s'est entretenu avec les dirigeants de la force conjointe du G5 Sahel. Pour commentaire, Eric Manirakiza a joint à Dakar l'économiste et analyste politique auprès du Wati, Gilles Yabi.
C'est un sommet traditionnel de l'Union africaine, donc il ne faut jamais s'attendre à ce qu'il y ait des décisions nécessairement importantes, fermes sur des sujets précis à la suite de ces grandes rencontres.
Il y a la question de la force G5 Sahel. On est très loin de rendre opérationnelle cette force.
Là, il semble que des discussions aient été, disons, assez précises et que, par exemple, il y aura un changement au niveau du commandement de la force en tirant des leçons, notamment du dernier attentat contre le QG de la force au Mali. Donc, il y a quand même une volonté forte de mettre en place cette force et pour cela, il faut bien sûr pouvoir régler la question du financement et ça ne se règle pas seulement à travers une multiplication de réunions. Je crois qu'effectivement, on est loin de voir cette force en train de réaliser, disons, des opérations sur le terrain avec succès. Mais je crois aussi que l'objectif n'est pas nécessairement de remplacer Barkhane à court ou même à moyen terme. Je crois que l'objectif est d'avoir une force G5 Sahel outillée pour la lutte contre les groupes terroristes, mais cela ne va pas nécessairement induire un départ de la force Barkhane qui a évidemment des capacités plus importantes et qui opère sur un territoire beaucoup plus large que le sera le G7.
Le président nigérien a parlé d'un combat militaire à court terme, mais un combat économique et social qui doit être essentiel, un développement économique.
Tout le monde, maintenant, même les militaires, répète à l'envi que la réponse militaire ne suffira pas à moyen terme à créer des conditions d'une sécurité dans le Sahel. Je crois que tout le monde est d'accord là-dessus. Il faut des réponses économiques, mais je dirais qu'il faut également des réponses politiques et des réponses sous forme de changements importants dans la gouvernance de l'État. Je crois que c'est sur ce terrain-là qu'il y a beaucoup moins de discussion et peut-être beaucoup moins d'ambition.
Il y a cette zone de libre-échange. On est loin du compte des 22 pour que ce traité puisse entrer en vigueur. Pourquoi, selon vous, les pays africains ne s'oppressent pas?
Dans le cas de ce traité de libre-échange continental, il n'y a peut-être aussi pas vraiment eu suffisamment de discussions, y compris au niveau des États, entre les différents acteurs de la société, les acteurs économiques. Il n'y a pas vraiment beaucoup de gens qui comprennent dans les pays africains de quoi il s'agit, quels sont les bénéfices attendus de ce traité de libre-échange et, par exemple, en quoi est-ce que ce traité dont se superpose ou rend caduque un certain nombre d'accords au niveau des communautés économiques régionales, par exemple.
C'était l'analyste politique Gilles Yabi, joint à Dakar.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui. Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook et sur votre portable.
Au Cameroun, les députés ont adopté la prorogation d'un an de leur mandat à partir du 29 octobre à la demande du président Paul Biya, reportant ainsi les législatives à 2019. Le président Biya a expliqué cette extension par la difficulté de tenir les élections présidentielles, législatives et municipales au cours de l'année 2018 Yacouba Ouédraogo a joint le professeur Aboya Ndong Manassé, professeur de sciences politiques à l'université de Douala et spécialiste des questions parlementaires.
En observation des présomptions d'embouteillage, des risques de chevauchement du calendrier électoral quasiment le 25 octobre et le 3 novembre 2018, on courait effectivement le risque au bois l'Ambouyamini d'organiser quasiment au même moment la présidentielle, les législatives et les municipales, ce qui devait compliquer la tâche aux différents organes chargés de gérer le processus électoral.
Cette prorogation d'un an du mandat des députés s'expliquerait donc par cette volonté d'éviter un chevauchement du calendrier électoral. Mais c'est une réalité qui était connue.
C'est une réalité qui était connue, mais les législatives, à elles toutes seules, ont bénéficié de deux prorogations précédentes à cause de la cohésion, de la convergence de vues qui était convoquée par les partis d'opposition pour réaménager un code électoral consensuel. Donc ce sont ces deux renvois successifs qui ont ramené la convergence quelques années plus tard à ces risques de chevauchement.
Le mandat des députés a été prorogé. Qu'en est-il des conseillers municipaux?
Les conseillers municipaux, certainement, vont être plus ou moins concernés dans les jours qui viennent, mais c'est au président de la République de décider. Aucun analyste, encore moins modeste observateur comme celui qui vous parle, ne peut présager de la perspective qu'il donnera au déroulement de ces prochaines municipales.
En attendant cela, l'élection présidentielle est prévue en principe en octobre, mais n'a pas encore été convoquée par les autorités. Faut-il qu'il y ait là aussi un report?
Les délais ne sont pas encore consommés, puisque logiquement, ils devraient convoquer le corps électoral entre la mi-juin et la mi-juillet pour qu'une élection présidentielle se déroule normalement en octobre prochain. Donc, nous sommes dans l'attente de cette convocation électorale.
On a Boko Haram qui sévit dans l'extrême nord du pays et les régions anglophones du nord-ouest et du sud-ouest confrontées à une crise sociopolitique. Est-ce qu'il est possible de tenir des élections dans ces parties du Cameroun?
L'élection présidentielle étant une élection majeure, c'est-à-dire qui capitalise l'attention de tous les Camerounais, qui a pour seule circonscription l'entièreté de l'État, l'élection présidentielle n'a aucun problème pour son déroulement. C'est plutôt la difficulté par rapport aux élections locales qui nécessitent la mobilisation des acteurs locaux qui ont à présenter des candidats qui mettent en pouvoir des difficultés matérielles.
C'était le professeur Aboya Ndong Manassé, joint à Douala.
Vous écoutez VOA Afrique à Douala, au Cameroun, sur Radio Balafon, FM 90.2.
Au Burkina Faso, la région cotonnière de Kourouma, dans le Kénédougou, refuse la culture du coton. Avec des impayés de 150 milliards de francs CFA, la région a exigé de l'industrie textile l'annulation de la dette. Elle estime que les instants livrés par la société, la campagne écoulée, n'étaient pas bonnes. On fait le point avec Alidou et Draogo.
Située à 75 km de Bobo Dioulasso dans la province du Kérédougou, la région cotonnière de Kourouma avec ses 9 départements représente 10% de la zone Sofitex, soit une capacité de production de 70 000 tonnes l'an. La raison de la fronde selon les paysans est que la Sofitex refuse d'assumer les conséquences de ses mauvais intrants de la campagne passée.
J'ai fait 5 hectares. En fin de compte, j'ai eu 2 tonnes et demie. Alors les années passées, les 5 hectares, et j'ai gagné un peu plus de 4 tonnes et demie.
L'an passé, j'avais cultivé 18 hectares. Et en ça, j'ai trouvé 9 tonnes 600. D'habitude, moi, je gagne 1 tonne 600 par hectare. Je pouvais même arriver jusqu'à 30 tonnes.
Moi, j'étais fait au moins 12 hectares. Et puis, j'ai eu 19 tonnes. La fois passée, j'ai fait 24 hectares. Puis, j'ai eu 20 tonnes seulement. Je devrais gagner au moins 40 tonnes. J'avais payé un tracteur pour me débrouiller. Puis, j'ai vendu aussi pour débrouiller mes enfants qui sont en école. Il y a 9 enfants avec moi dans l'école. La fois passée, là, moi, j'ai fait coton jusqu'à 24 hectares. Je n'ai rien gagné. Cette année, famille. Je veux faire céréales, 15 hectares. Si je ne peux pas me laisser comme ça, j'ai un père de famille.
Pour eux, pas de raison de s'endetter encore cette année.
Mon impayé, ça a élevé à 3 600 000. J'ai vendu mon coton, j'ai eu 2 millions et quelques. Je rentre bredouille. Je n'ai pas continué à m'endetter.
Moi, j'ai eu d'impayé 400 000. Sur les 5 hectares, j'ai eu que 2 500 000. Tout le monde a perdu. Et j'ai cultivé mon céréal. J'ai cultivé déjà 3 hectares et demi de maïs. Et je me prépare pour le mil, le sorgho et autres. J'ai prévu 3 hectares aussi pour le mil.
Alors, personne dans la région ne fera le coton car nous avons fait du gris-gris, nous dit Issa Traoré, producteur et chef de terre de Kourouma.
Les chefs de terre ont fait les gris-gris en fait pour ça. En celui qui cultive le coton, il y aura quelque chose de mal.
Pour retourner au coton, on pose maintenant d'autres conditions. Pascal Traoré, la cinquantaine dépassée, est dans son nouveau champ de céréales.
Pour reprendre le coton dans la région de Norola, on a sollicité les OGM. Bien avant les OGM, on les a cultivés. Si on pouvait ramener ces OGM, parce que les OGM, là, ils sont très pratiques et puis les vers n'arrivent pas à atteindre cela.
Ali Douedraogo, de retour de la région cotonnière de Kourouma pour VOA Afrique.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
La première édition du Salon du Pagne africain axée sur le thème « Promouvoir la culture et la femme africaine à travers le Pagne » s'est ouverte le week-end à Brazzaville. Ceci avec la participation de créateurs et de stylistes de 15 pays du continent. Le point à Brazzaville, Arsène Séverin.
Quelques stylistes et commerçants sont venus célébrer le pagne africain. Le salon de Brazzaville a permis des discussions sur les nouveaux modèles de pagne, mais aussi d'installer des stands de qualité. Pour la styliste commerçante brazzavilloise Solange, le pagne est une signature de la femme africaine.
Et le pagne, ça sert à beaucoup de choses. On le porte. On peut aussi porter un enfant avec. On s'en sert comme drap pour se couvrir, pour mettre sur le matelas. C'est très symbolique en tout cas. Pendant le mariage ici au Congo, on demande toujours les pagnes. Et souvent, les femmes aussi sont habillées en pagne pour leur dot, le mariage traditionnel. Vraiment, le pagne, c'est le chouchou de la femme africaine.
Venue de Bamako, Kadidia Traoré a partagé l'expérience du bassin malien.
J'ai des jolis modèles, j'ai des robes, j'ai des ensembles, les ensembles qu'on peut porter la nuit pour faire les soirées. Le salon, quand même, moi, j'ai trouvé que vraiment ça va. Parce que c'est la première fois qu'on valorise le pain africain à Brazzaville. Je trouve que c'est vraiment important. Si ça peut continuer au fur et à mesure, c'est bien.
Paulette Sarah Akpo, ivoirienne, est une habituée des marchés africains du pain. À Abidjan ou à Cotonou, elle propose ses propres créations du pain africain.
En fait, c'est la soie, mais on a imprimé les motifs africains là-dedans. Les motifs du pain, du wax. C'est nous-mêmes qui le faisons. On les a en fraîche, en soie et puis en plissé. Mais bon, ça va, on s'en sort. L'initiative, elle est très bonne. On a fait des rencontres et tout.
Mais le pagne n'est pas que l'affaire des femmes. Déo, vendeur de pagne au marché Poto-Poto de Brazzaville, explique sa présence à ce salon.
Juste parce que j'ai une boutique de pagne chez Maca. C'est pour ça que je suis venu exposer mes futurs deux temps. Hyper nouveau. Il y a les Java, il y a les dentelles, puis ma création des deux temps, très appréciée.
Loin d'un simple vêtement, une artisane basée à Pointe-Noire utilise avec beaucoup de finesse le pagne comme accessoire dans l'ameublement des maisons.
En fait, moi, ce qui m'attire, c'est la couleur du pagne, la matière. Moi, je voudrais que le pagne soit représenté différemment que sur un vêtement. Donc, le fait en meubles, en tabouret, en pochette, parce que c'est une originalité, une créativité. Ils sont très intéressés. Je suis basée à Pointe-Noire. J'ai mes artisans, menuiserie, soudeur, couturier et potier.
Organisée par Pamela Okemba, la première édition du Salon de Pagne à Brazzaville a visé la revalorisation du pagne africain. La femme s'identifie par le port de son pagne, a-t-elle conclu. Arsène Séverin, Brazzaville, VOA Afrique.
Bon.
Bonjour, c'est Nathalie Barge pour vous rappeler que le monde au féminin, c'est à 19h05 temps universel ce mardi. L'invité de LMF est Passy Moubalama, militante des droits des femmes et des enfants en République démocratique du Congo, fondatrice de l'ONG congolaise Aide Profane. Nous parlerons du rapport publié par son association intitulé « Une enfance volée par les trafiquants de sexe en RDC » qui dresse un état des lieux de l'exploitation sexuelle dont sont victimes les filles dans les zones minières. Le monde au féminin, c'est tous les mardis et samedis à 19h05 temps universel sur VOA Afrique. Vous pouvez également nous suivre sur Facebook le mardi. À tout à l'heure.
Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. N'Djamena sur 93.1 FM. Kledou FM, Bamako.
Fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Merci à Michel Joseph et à Michael Dubinsky.